France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Il y a 120 ans, Einstein publiait 4 textes majeurs qui ont bouleversé la physique. On continue notre feuilleton avec aujourd'hui, 3e épisode, 3e article, la relativité restreinte. En 1905, et non seulement l'année miraculeuse d'Einstein, c'est aussi une révolution conceptuelle. Avec ce papier fondateur, le physicien a transformé notre manière de voir le monde et de l'appréhender. Avec un raisonnement très contre-intuitif, qui n'a pas été accepté tout de suite par la communauté scientifique, sa proposition est radicale. Ce qu'on appelle l'espace et ce qu'on appelle le temps doivent être réformés en profondeur. Einstein pose ainsi les premières pierres de la notion d'espace-temps et offre un cadre conceptuel totalement inédit, dont la portée surprend encore. Relativité restreinte, un plan pour l'espace-temps. Thibaut Damour, bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes professeur permanent à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, membre de l'Académie des Sciences et le lauréat de la médaille Albert Einstein en 1996. Et nous sommes en ligne avec Richard Taillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en physique à l'Université Savoie-Mont-Blanc et chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Annecy. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et merci également d'être de plus en plus nombreux sur Blue Sky. Vous retrouverez sur notre compte plein de ressources pour compléter votre écoute, c'est sur notre fil @sciencesCQFD. Alors, quelles étaient les prémices du concept de la relativité en physique? Quels ont été ses premiers jalons? Quelle a été la réception des travaux d'Einstein? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. En 1955, on lui rend hommage.
La relativité du temps et de l'espace, découverte par Einstein, constitue un progrès essentiel de la science au XXe siècle. Nul ne songe plus à le contester. Elle passe pour très difficile à étudier, mais nous pensons que tout le monde doit au moins savoir et peut comprendre de quoi elle s'occupe, en quoi elle a modifié la science et transformé la conception du monde. Il suffit, croyons-nous, d'un peu d'attention. Eh bien, de quoi s'agit-il? La relativité concerne toutes les mesures que fait la science, mesure des longueurs, mesure du temps, mesure des masses, etc. Elle a établi les formules exactes qui associent ces mesures entre elles. Elle a découvert ce qu'il y a d'essentiel et de profond dans chaque observation scientifique, car elle a su éliminer les caractères accessoires. La relativité préside donc à tout ce qui est mesure des phénomènes naturels, c'est-à-dire à toute la physique. Loin d'être une théorie mathématique pure, comme certains l'ont cru, elle concerne la réalité la plus concrète. Elle est encore moins une théorie philosophique à laquelle nous puissions, selon notre gré, adhérer ou ne pas adhérer. À ce propos, soulignons qu'en dépit de son nom, la relativité n'affirme pas que tout est relatif. Elle n'invite nullement à un scepticisme systématique. Au contraire, elle conduit à ce qu'il y a d'absolu dans les événements naturels.
Voilà un extrait de l'émission Soirée de Paris sur la RDF en 1955 et la voix de Paul Couder. Richard Taillet, ça c'est une bonne accroche et une bonne approche, voir la relativité comme quelque chose qui concerne la réalité la plus concrète.
Oui, alors effectivement, quand on parle de relativité, on imagine des savants moustachus et hirsutes qui écrivent des équations que personne ne comprend au tableau. Mais d'une part, je voulais juste rebondir sur un petit point dans le document où il est dit que c'était une science difficile à étudier. On y reviendra probablement quand on parlera de l'article, mais c'est pas vrai du tout. En fait, c'est au point de vue mathématique, c'est même remarquablement simple. Hein, les mathématiques qui sont dans l'article de 1905, elles sont accessibles à un bon étudiant de terminale, hein, à mon avis. Hein. Mais de fait, on s'est rendu compte, pour revenir à votre question, qu'effectivement, ça touchait les notions de la façon dont on devait concevoir l'espace et le temps, touchait à la vie de tous les jours, et notamment quand ça a été intégré dans la relativité générale dont on parlera probablement un tout petit peu à la fin. Aujourd'hui, quand on construit des dispositifs GPS pour se localiser dans l'espace, il serait inconcevable de ne pas prendre la relativité restreinte. On se tromperait en fait. On ferait des instruments qui ne marcheraient simplement pas, qui auraient une précision qui serait complètement ridicule.
Et on verra en effet en fin d'émission pourquoi la relativité restreinte est-elle essentielle pour faire fonctionner nos GPS. Mais d'abord, Thibaut Damour, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive.
C'est intéressant d'entendre un tel accent. Aujourd'hui, on n'en entend plus. Je pensais que c'était Bachelard, en fait, qui parlait.
C'est vrai qu'il y a quelque chose à la Bachelard.
Mais cette archive ne dit pas ce qui a le plus frappé, par exemple, les collègues d'Einstein comme Max Planck, que ça change profondément un concept philosophique qui était ancré dans la conscience humaine depuis des millions d'années, qui est le temps, le fait que le temps est quelque chose qui existe de façon absolue en dehors de nous, dans lequel nous sommes plongés. Et parce que c'est ça l'élément vraiment révolutionnaire de cet article d'Einstein. La plupart des équations de cet article avaient déjà été écrites avant. Et il y avait en revanche une prédiction totalement nouvelle dans cet article que si vous avez deux horloges jumelles qui sont côte à côte, mais il y en a une qui voyage et qui revient voir sa sœur après, eh bien la voyageuse ne marque pas le même temps, mais elle a vécu moins de temps de son propre temps à elle. Et ça, personne ne l'avait dit avant Einstein.
Alors, en effet, cet article concerne le temps, l'espace, mais il y a quelque chose de fondamental pour Einstein, Richard Taillé, c'est cette question de la lumière. Depuis l'âge de 16 ans, il cherche à savoir ce qui se passe quand on va vers la vitesse de la lumière.
Alors effectivement, c'est ce qu'il dira assez tard dans sa vie, donc peut-être que ça relève du mythe, mais en tout cas, la question de la nature de la lumière, effectivement, elle est prégnante à la fin du 19e siècle. Plus précisément, on a de très bonnes raisons de penser, on sait quasiment que la lumière est une onde à cette époque-là, et ça pose des problèmes conceptuels et des paradoxes, ça mène à des paradoxes. La lumière est décrite au XIXe siècle par ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme, qui décrit l'électricité et le magnétisme sous un même formalisme. Cela, du coup, c'est une science qui est plutôt complexe du point de vue formel. Mais en tout cas, on sait décrire la lumière de cette manière-là. Et si effectivement la lumière est une onde, comme on le pense à l'époque, il est inconcevable qu'il n'y ait pas de milieu dans lequel elle se propage, cette lumière. Donc la lumière devrait être une oscillation de quelque chose. Ce quelque chose, il a un nom à l'époque, on l'appelle l'éther. Et toute la question, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est d'essayer de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à cet éther. Donc ça voudrait dire notamment que si on mesure la vitesse de la lumière depuis la Terre qui est en mouvement par rapport à la Terre, on devrait voir une vitesse de la lumière un peu différente que si on était au repos. Et ça, les tentatives de mesurer ça, elles échouent toutes, et pas pour des raisons d'imprécision d'expérience. Les expériences sont très précises, mais simplement, il semble que la lumière soit la même pour tout le monde, effectivement.
On va revenir sur ces tentatives, mais pour bien comprendre ce principe qu'est l'éther, que Einstein va d'ailleurs enterrer avec cet article, Thibaut Damour, l'éther, en fait, voilà, c'est comme la lumière, une onde ne peut pas se propager dans le vide, hein, comme le son se déplace dans l'air, par exemple, et comme on ne sait pas dans quoi se déplace la lumière, on invente donc ce concept d'éther, mais l'éther, c'est pas très clair.
C'est pas très clair, mais ça allait dans le même sens que l'espace absolu de Newton, parce que la théorie, contrairement à Galilée, le principe de relativité a été introduit par Galilée, où il imagine si vous vous rassemblez avec quelques amis dans la soute d'un bateau et que vous faites des expériences, des petites gouttes d'eau qui tombent, vous avez des papillons qui se déplacent à gauche, à droite dans un bocal, et si le bateau se déplace à vitesse constante par rapport au quai ou soit au repos, Galilée affirmait, on ne voit aucune différence. Le mouvement est comme rien. Et donc, ce sentiment très fort d'avoir ce principe de relativité, qu'en particulier les vitesses de papillons qui se déplacent par rapport aux bateaux en mouvement sont les mêmes à gauche et à droite. Et la lumière, pourquoi, si effectivement la lumière est une onde qui se déplace par rapport à un milieu qui est fixe, et donc si le bateau se déplace, il se déplace par rapport à ce milieu fixe, est-ce qu'on peut voir ce milieu de propagation de la lumière? Ça a été une question liée à Newton qui est arrivé après Galilée, mais Newton n'a pas pris le principe de relativité comme un point de départ, mais comme un théorème, et pour lui, il devait exister un espace absolu, dans lesquels les lois de la mécanique prennent des formes particulièrement simples, et la théorie de Maxwell de la propagation de la lumière avait besoin d'un milieu, donc ça paraissait naturel à tout le monde de dire que l'espace absolu était identique à l'éther, le milieu de propagation de la lumière, mais du coup, on aurait dû le voir et on ne voyait rien.
Je reviens sur ce que vous venez de dire et je me tourne vers vous, Richard Taillet, par rapport à ces prémices du concept de la relativité en physique. Alors c'est un peu anachronique de le dire comme ça, mais le concept de relativité vient donc de Galilée. On ne retrouve pas ce mot comme ça dans ses écrits, mais l'idée de relativité en physique en tant que telle, ça vient de lui au départ.
Oui, bah effectivement, comme le disait Thibaut Damour tout à l'heure, l'idée qu'en fait on n'est jamais en mouvement, mais on est en mouvement par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, c'est une idée qui semble un petit peu naturelle, mais que Galilée a formalisée et a appliquée à la lettre en mécanique. En fait, donc ce principe de relativité, effectivement, en mécanique, vient de Galilée. Après, là où ça devient un petit peu plus tordu pour les physiciens, c'est qu'il a semblé à un moment donné que ce principe de relativité était mis en défaut expérimentalement, ou plus précisément conceptuellement, quand on s'intéresse, j'y reviens, à l'électromagnétisme. J'ai déjà dit ce mot-là tout à l'heure et il est vraiment crucial dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Et en particulier, on savait à la fin du 19e siècle que quand on analyse ce qui se passe quand on fait passer un aimant dans une bobine, on raconte des histoires complètement différentes si on se place du point de vue de l'aimant ou si on se place du point de vue de la bobine. On obtient les mêmes résultats physiques à la fin, mais on est obligé d'invoquer des effets physiques différents. Il y avait une dissymétrie selon qu'on considérait que l'un était au repos ou l'autre était au repos. Et ça, c'est une des choses que Einstein va balayer, en fait. Pour lui, il n'y a qu'un mouvement relatif et il y aura une seule manière de décrire ce genre d'expérience. Et ça sera vraiment la même pour qu'on soit du point de vue de l'aimant ou de la bobine.
Alors, comme vous le dites, et comme on l'a vu aussi dans notre tout premier épisode, à la fin du 19e siècle, la physique s'interroge énormément sur l'électromagnétisme, sur la nature de la lumière. Thibaut Damour, voilà, le problème, à quelle vitesse va-t-elle? Et est-ce que cette vitesse dépend bien de la vitesse du référentiel dans lequel elle est émise? Sont les questions qu'on se pose à cette époque.
En fait, plus précisément,
oui.
La vraie question, c'est pas celle-là, mais le postulat essentiel d'Einstein, c'est que la vitesse de propagation de la lumière dans un référentiel particulier, disons l'éther, ne dépendent pas de la vitesse du corps émetteur. C'est-à-dire, contrairement, si vous vous déplacez en voiture et vous jetez une balle, la balle ira plus vite parce qu'elle aura aussi la vitesse, elle accumule aussi la vitesse de la voiture dans laquelle vous vous déplacez, elle n'aura pas la même vitesse si vous le lancez vers l'avant de la voiture ou vers l'arrière de la voiture. C'est ça le postulat essentiel d'Einstein, le deuxième postulat, l'indépendance de la vitesse de la lumière dans un espace particulier, par exemple le système au repos, l'espace absolu, de la vitesse du corps émetteur. Et le deuxième principe, c'est le principe de Galilée de relativité, que dans tout autre référentiel qui se déplace, donc dans un train ou dans un bateau qui se déplace à vitesse constante par rapport à ce premier espace absolu provisoire, les mêmes lois de la physique s'appliquent que dans le premier bateau ou référentiel.
Oui, voilà, en effet, la lumière est toujours une constante, qu'elle soit émise depuis un référentiel en mouvement ou non. Vous me parlez de l'exemple de la balle, mais on peut aussi prendre donc les rayons de lumière qui sortent des phares de ma voiture iront à voilà, la même vitesse si ma voiture avance ou si elle est à l'arrêt. Alors, dans ce contexte historique, on a des expériences, l'expérience de Michelson et Morley, une expérience d'optique où ils cherchent à prouver l'existence de l'éther luminifère. Quelle est cette expérience? Quelles en sera les conclusions? Restez à l'écoute.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture, nous parlons de la relativité restreinte d'Einstein en compagnie de Thibaut Damour et Richard Taillet. Nous venons voir que la physique newtonienne, au début du XXe siècle, semblait à bout de souffle, incapable de résoudre un nombre de problèmes toujours plus importants. L'invariance de la vitesse de la lumière est un des piliers de la relativité restreinte, on vient de le dire. Un principe qui se vérifie expérimentalement par une expérience devenue très célèbre et familière aux étudiants en physique. L'interféromètre de Michelson et Morley. Pour le reportage du jour, Céline Lozen est retournée sur les bancs de l'école au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris pour refaire l'expérience et surtout pour en comprendre la portée. Bonjour Céline.
Bonjour Natacha. Oui, l'invariance de la vitesse de la lumière est un des piliers de la relativité restreinte, un principe qui se vérifie expérimentalement par une expérience devenue célèbre et familière aux étudiants en physique, l'interféromètre de Michelson et Morley. Sur la paillasse d'une salle d'expérience du lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris, Nicolas Niaud, docteur en histoire des sciences, réplique le dispositif. Alors si Einstein affirmait que le principe d'invariance de la vitesse de la lumière pouvait se poser par simple raisonnement déductif, cette expérience ouvrira tout un champ pour la physique du XXe siècle et vers la relativité restreinte.
Je vais me regarder si on peut avoir des franges.
Là, vous les voyez ?
Là, on a quelques-unes. Venez vous mettre à ma place. Vous observez les rayures ? Je vais l'éteindre.
Là, on voit une belle tache rouge.
Et je vois que si jamais je tourne un petit peu les vis, notamment à ce niveau-là, je peux également venir tourner les vis des miroirs, je vois que les...
Alors décrivez quand même les figures qu'on observe, il y a 4 points alors.
Oui, ces 4 points sont dus en fait aux différentes réflexions successives.
Donc le but c'est de les faire converger en jouant sur la distance des miroirs.
Voilà, sur la distance et sur l'inclinaison. Puisque vous voyez que si jamais je tourne légèrement les vis qui me permettent de régler l'inclinaison des miroirs, qui sont situés sur chacun des miroirs, on va pouvoir déplacer nos taches lumineuses de telle sorte qu'elles viennent...
Presque se superposer. Bah voilà.
Et là, on a réussi grossièrement à ramener nos différentes tâches. Alors, Michelson avait compris que la meilleure règle pour mesurer des phénomènes extrêmement petits, ce sont les interférences lumineuses, puisqu'elles permettent d'observer des phénomènes de l'ordre de la longueur d'onde. Et du coup, lors de son dispositif, il va chercher à créer 2 trajets différents pour la lumière. Michelson va disposer 2 miroirs qui sont situés perpendiculairement l'un à l'autre. Entre ces 2 miroirs, il va placer une lame séparatrice. C'est donc ce qu'on appelle maintenant un interféromètre avec division d'amplitude, c'est-à-dire lorsque la lumière arrive, une partie de la lumière va traverser et aller se réfléchir sur le miroir qui est dans la ligne droite. L'autre partie de la lumière va aller être réfléchie par la première lame, pour aller se réfléchir sur le miroir qui est à angle droit.
Petite précision, le miroir semi-réfléchissant est à équidistance des 2 miroirs qui renvoient.
Voilà. Et que va-t-il se passer ? Lorsque la lumière sort de la source lumineuse, elle va arriver sur la lame séparatrice. Jusque-là, l'ensemble de la lumière a parcouru le même trajet. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle maintenant de différence de phase. À partir de ce moment-là, la moitié de la lumière va sur le miroir numéro 1.
Elle poursuit son chemin.
Exactement. Se réfléchit et revient. L'autre partie de la lumière se dirige exactement à angle droit.
Celle qui est perpendiculaire.
Tout à fait, qui est perpendiculaire. À ce moment-là, les 2 faisceaux lumineux, on dirait, vont parcourir des distances différentes. Et qui dit distances différentes, dit potentiellement, en termes modernes, une différence de phase. Ce qui peut induire des interférences. À noter qu'à partir du moment où les 2 faisceaux lumineux reviennent sur la lame séparatrice, ils se recombinent entre guillemets, et à partir de là, ils ne font plus qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déphasage entre les 2.
Maintenant, si on déplace un des miroirs, par exemple celui qui est perpendiculaire.
Et justement, c'est bien ça le problème, c'est que si on déplace très légèrement l'un des miroirs, et j'insiste sur très légèrement. Un quart de longueur d'onde. Alors, si les 2 miroirs restent parfaitement perpendiculaires, vous allez simplement décaler le trajet de la lumière de l'un des 2. Dans ce cas, les 2 miroirs vont être soit en opposition de phase, les 2 faisceaux en opposition de phase, ou en quadrature de phase. Dans ce cas, la teinte en elle-même va changer de couleur, va changer d'intensité. Si jamais vous l'obtenez des franges, on va plutôt venir incliner légèrement l'un des miroirs. Si vous inclinez l'un des miroirs, les faisceaux vont faire un angle très léger, et du coup, on va avoir une alternance de franges sombres et brillantes. C'est un petit peu ce que Michelson faisait, puisqu'avec la précision de son dispositif, en fait, c'est extrêmement difficile d'obtenir une teinte plate. En réalité, ce que va faire Michelson, c'est qu'il va supposer que, d'après l'idée de Fresnel, la Terre se déplace librement à travers les terres. Par conséquent, vous allez avoir sentir ce vent des terres si jamais vous vous déplacez dans le même sens que la Terre. Donc ce que fait Michelson, c'est qu'il va venir placer son interféromètre de telle sorte que l'un des 2 bras soit parallèle au plan de l'écliptique dans lequel la Terre se déplace. l'autre bras étant perpendiculaire. Donc grossièrement, si je schématé un petit peu, parce qu'il l'est fait en Europe et pas sur l'équateur, mais...
Pour le pôle Nord, quoi.
Voilà, on a un bras qui dirige dans la direction est-ouest, l'autre bras qui dirige dans la direction nord-sud. Et son expérience se révèle, entre guillemets, négative. Pourquoi je dis entre guillemets ? À aucun moment, Michelson ne parle de vitesse de la lumière.
C'est un peu anachronique de présenter les choses comme ça.
Exactement. C'est même plus qu'un peu, c'est totalement anachronique. Il ne parle pas de la vitesse de la lumière, il ne remet pas en cause l'existence de l'éther. Et c'est en ça que l'expérience de Michelson va, entre guillemets, Michelson et Morley, va entre guillemets jeter un pavé dans la mare, puisque on avait deux rapports à l'éther. Le premier, donné par Fresnel, vient d'être invalidé par l'expérience. Le second, imaginé par Stokes, peut être validé par l'expérience, mais on sait que cette théorie-là, mathématiquement, n'est pas valable. Par conséquent, c'est ça qui va, entre guillemets, lancer la dernière décennie du 19e siècle, décennie pendant laquelle on va s'atteler à déconstruire tout ce qu'on a construit pendant les 90 premières années. Le 19e siècle, c'est 90 ans à construire des modèles sur l'éther, 10 ans à les démolir.
Pour autant, cette expérience, même si Einstein ne s'en sert pas pour appuyer son raisonnement, puisqu'il n'en avait a priori pas besoin, ça vient renforcer cette idée de constance de la vitesse de la lumière, enfin de ce qu'on appelle vitesse de la lumière, vitesse limite.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, si on l'interprète dans le cadre de la relativité, effectivement, on arrive à la conclusion que la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel. Mais si on regarde les étapes, en fait, Einstein s'inspire un petit peu de l'expérience de Michelson. Bon, non seulement il la connaît, hein, puisque...
Il ne la cite pas, en tout cas.
Il ne la cite pas, mais on sait très bien qu'Einstein...
En affirmant qu'un simple raisonnement déductif aurait suffi à poser son principe de relativité.
On sait très bien qu'Einstein a tendance à assez peu citer ses sources, hein, que ce soit notamment Henri Poincaré et Hendrik Lorentz, qui sont les deux grands promoteur avant Einstein de la transition vers la relativité.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Richard Taillé, avant de parler de ces sources qui ne sont pas citées par Einstein, voilà en tout cas une des expériences les plus importantes et des plus célèbres. Ces expériences, en effet, comme on l'entendait, expériences négatives qui donnent un résultat contraire à ce qui était recherché.
C'était très bien décrit par les personnes et bravo pour le challenge de présenter l'interféromètre de Michelson sans dessin. C'est impressionnant. Effectivement, comme ça a été dit, même si c'est pas ce que Michelson voulait mesurer explicitement ou ne le cite pas comme ça, ça va être pris ce résultat comme le fait qu'on a du mal à mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther. Ça peut être sauvé, ça, par le fait que l'éther pourrait être entraîné totalement ou partiellement par la Terre, ça s'est envisagé et c'est même à la base de certaines interprétations de résultats expérimentaux au 19e siècle. Après, je voulais quand même, vous alliez reporter ça un petit peu plus loin, mais sur le fait que Einstein ne citerait pas ses sources, je trouve ça un petit peu, ça rend peu justice à Einstein, parce que dans l'article dont on est en train de parler, précisément dans le premier, vraiment dans l'introduction, deuxième paragraphe, il mentionne les expériences qui n'arrivent pas à mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, en fait. Hein. Donc, il ne le passe pas du tout sous silence, il ne prononce pas, il n'écrit pas les noms de Michelson et Morley, mais il fait référence très explicite à ce type d'expérience.
En tout cas, ce type d'expérience donne des résultats très étonnants pour l'époque. À ce moment-là, on met donc en doute l'existence de l'éther. Thibaut Damour, la théorie que le néerlandais Lorentz va développer sur la toute fin du 19e siècle est directement liée au résultat de cette expérience de Michelson et Morley. Il propose une solution ingénieuse dès 1892.
Oui, il propose que, comme le problème dans l'interféromètre de Michelson-Morley quand il est posé sur Terre, c'est que il y a un des bras, quand il est dans la bonne direction, où la vitesse de lumière ne devrait pas aller en moyenne à la même vitesse, mais différer d'une toute petite quantité, de l'ordre de 10 milliardièmes. Il suppose que tous les corps solides qui sont entraînés dans le sens du mouvement du référentiel sont contractés précisément de cette quantité-là, qui dépend du carré de la vitesse de la lumière, du corps par rapport à la vitesse de la lumière. Et ça annule du coup l'effet qu'aurait pu voir Michelson-Morley. Donc ça explique pourquoi on n'a rien vu, en disant que les corps qui se déplacent sont contractés dans le sens du mouvement d'une certaine quantité. Et non seulement il postule ça, mais il le prouve en ce sens qu'il démontre que si vous avez des forces qui maintiennent la stabilité d'un corps solide et que ces forces sont du même type que les forces électromagnétiques, alors effectivement, un corps en mouvement sera contracté. Donc de son point de vue-là, c'est bon. Il a expliqué tout ce qu'il fallait. Mais il est vrai que pour expliquer ça aussi et que d'autres expériences n'indiquent rien de particulier pour le mouvement d'une expérience par rapport à l'éther, il devait aussi supposer qu'il fallait introduire une quantité fictive, un temps mathématique qui apparaissait pour que les équations montrent qu'il n'y a pas d'effet physique, mais ce temps, qu'il appelait le temps local, n'avait aucun sens d'un vrai temps pour lui. Et comme Einstein lui-même l'a dit, la contribution essentielle d'Einstein, c'est de comprendre que le premier effet physique dont parlait Lorentz, que les corps en mouvement sont contractés, était quelque chose en fait de fictif, que si vous avez un corps qui est en mouvement et vous mesurez sa longueur quand vous êtes en mouvement avec lui, vous verrez toujours la même longueur, donc il n'y a pas de vraie contraction, mais qu'en revanche, ce que Lorentz appelait un temps fictif purement mathématique était, comme l'a dit Einstein, le temps pur et simple. Et ça, c'est la révolution conceptuelle essentielle d'Einstein, et peu de gens l'ont compris, mais heureusement pour lui, celui qui allait devenir son collègue à Berlin, Max Planck, a compris que ça, c'était une révolution d'une ampleur plus importante même que la révolution copernicienne, et par rapport à laquelle toutes les géométries non euclidiennes qui avaient été découvertes au XIXe siècle étaient jeux d'enfants, comme il disait.
Richard Taillé, ce temps local pensé par Lorentz, c'est quelque chose qui est repris très vite après, enfin c'est pas, plus loin, Henri Poincaré hein, qui reprend ce concept-là.
Oui, alors effectivement, l'idée à l'époque, elle est encore une fois ancrée sur la notion d'éther et de référentiel de qui serait privilégié. Donc il y aurait une sorte de référentiel dans lequel on fait de la physique et on comprend tout. Et il y a d'autres référentiels, ceux, par exemple, dans lequel on est quand on est sur Terre. On se déplace par rapport à ce référentiel absolu. Et il faut arriver à sauver les phénomènes, en quelque sorte, à comprendre pourquoi, quand on fait des expériences, on a l'impression que la lumière ne se déplace pas, la vitesse de l'air ne change pas. Mais on essaye de mettre des rustines, si vous voulez, et d'introduire des paramètres dont on dit qu'ils ne sont pas réels. Un temps qui n'est pas un vrai temps, qui est appelé local, une contraction qui ne serait pas vraiment une contraction, mais qui finalement, quand on la mesure, en est un, puis à la fin, on ne comprend pas grand-chose de ce qu'est le monde réel. Et ce que va faire Einstein, effectivement, comme l'a très bien dit M. Damour, c'est de mettre tout le monde d'accord et de dire, mais là, on est en train de parler du vrai temps, et là, on est en train de parler des vraies distances. Simplement, ces choses-là ne sont pas régies par les lois que nous dicte l'intuition et que semble nous dicter la mécanique newtonienne.
Mais Poincaré, on a là tous les éléments clés qu'aurait pu donner la théorie de la relativité restante. Il a été tout proche. Est-ce que Einstein a utilisé les travaux de Poincaré? Ça, c'est pas certain, Thibaut Damour.
À mon avis, il est certain qu'il ne les a pas connus et qu'il ne les a pas utilisés. Dans le cas de... D'abord parce qu'il a écrit une lettre au mois de mai 1905, donc bien avant que Poincaré écrive quoi que ce soit sur le sujet, à son ami Abicht, en disant que il vient de faire 4 travaux scientifiques. Les 3 premiers sont déjà soit publiés, celui sur le Licht Quantum, soit sur l'effet, le mouvement brownien, etc. Les 3 étaient envoyés à publication, et le dernier était en cours d'être finalisé, et c'est celui dont on parle. Donc au mois de mai, il disait qu'il avait déjà compris qu'il avait changé la cinématique, etc., et qu'il se passait des choses. Donc, je pense qu'il n'avait pas accès aux journaux, en particulier au compte-rendu de l'Académie des sciences, dans lequel, le 5 juin 1905, Poincaré a publié ses idées de façon cryptique. Mais, à mon avis, ce qui est encore pire, c'est qu'il y a des gens qui ont lu cet article de Poincaré, qui ont discuté avec Poincaré pendant des mois. C'était Langevin et c'était Lorentz. Et ces personnes n'ont jamais dit que Poincaré avait introduit quoi que ce soit de révolutionnaire ou de fondamental. Donc, la faute des gens qui n'ont pas cité ou pas compris ce qu'a fait Poincaré, c'était Lorentz et Langevin, mais certainement pas Einstein.
En tout cas, ces questions-là animaient vraiment les débats de cette époque. Tout était déjà en germe, que ce soit dans les travaux de Lorenz ou de Poincaré pour développer cette théorie. Néanmoins, même si tous les éléments étaient là, il a été le seul à les interpréter de cette manière. Comment rester avec nous ? D'Orchestral Manoeuvre in the Dark, car nous parlons de vitesse relativiste, ou plus exactement de la relativité restreinte d'Einstein, en compagnie de nos deux invités, Thibaut Damour, professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques, membre de l'Académie des sciences et lauréat de la médaille Albert Einstein en 96, et Richard Taillé, enseignant-chercheur en physique à l'Université Savoie-Mont-Blanc et chercheur en astrophysique au laboratoire de physique théorique d'Annecy. On arrive dans cette histoire en 1905. Le papier d'Einstein est donc soumis en juin 1905 de l'électrodynamique des corps en mouvement. Il est soumis à la revue scientifique Annalen der Physik et il sera publié le 26 septembre 1905. Richard Taillé, en fait Einstein à ce moment-là part du constat qu'il y a un problème sémantique dans notre manière de voir les choses en électrodynamique.
Oui, alors plus que même sémantique, conceptuel. Et alors, en fait, je vais même retourner l'ensemble de votre phrase. Parce que le problème, il peut être vu de deux manières. On a deux théories, deux manières de faire de la physique qui sont complètement différentes. Une qui est associée à l'électromagnétisme, dans lequel on a éventuellement la lumière qui est une onde électromagnétique et qui obéit à des équations un peu complexes, mais qu'on connaît bien. Et d'autre part, la mécanique, qui obéit à d'autres lois, qui sont, elles, plus simples. Et on se rend compte que quand on fait la physique en changeant de référentiel, je suis dans un référentiel, j'obtiens certaines lois, et si je change de référentiel, je peux éventuellement obtenir d'autres lois, et la manière dont les lois changent quand on change de référentiel n'est pas la même en électromagnétisme et en mécanique. Et ce qu'ont envie de faire la plupart des gens, c'est de conserver la mécanique newtonienne avec la relativité galilienne et de garder en quelque sorte notre intuition et d'essayer de modifier l'électrodynamique. Ce que va faire Einstein, c'est le contraire, lui. Il va dire, ben non, les lois de l'électromagnétisme, elles sont ce qu'elles sont. Elles ont des manières de se transformer qui sont un peu bizarres, contre-intuitives, mais c'est ça qu'on va garder et on va changer la mécanique. Donc, il décide vraiment d'accorder un poids extrêmement fort à ce qu'on savait sur l'électromagnétisme et il sacrifie la mécanique en montrant dans son article que c'est pas très grave parce qu'aux vitesses usuelles et dans les conditions usuelles, on voit pas la différence entre sa théorie et la mécanique newtonienne, mais de manière conceptuelle, il rebat complètement les cartes.
Thibaut Damour.
Oui, mais il faut aussi rappeler que quelques mois avant, Einstein avait écrit cet article qu'il jugeait d'ailleurs être le seul vraiment révolutionnaire qu'il a fait en 1905. Sur les quantas de lumière, qu'on appelle aujourd'hui photons. Et cet article remet en cause toute la théorie de Maxwell et de l'électrodynamique. Donc, en fait, il fait attention de ne pas, dans la première partie de son article ici sur la relativité, il n'utilise pas les équations de l'électrodynamique. Il ne veut pas dire que la lumière est une onde, parce qu'il pensait que la lumière n'était pas qu'une onde, au moins. Et il veut une approche purement espace, temps et postulat.
Oui, c'est ça, c'est Richard Taillé. On a là un article qui est divisé en deux parties.
Effectivement, la première donc s'appelle partie cinématique, donc il va faire de la mécanique, et une deuxième qui s'appelle partie électromagnétique. Et donc c'est la première en fait qu'on retient souvent parce que c'est elle qui change la notion d'espace et de temps. Et ce qui est remarquable, c'est que cette partie cinématique, elle est limpide, et elle est on la lit en fait. C'est le problème qu'on rencontre aussi quand on veut enseigner ça à des étudiants, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous prennent pour des débiles au début, enfin ils nous disent des choses tellement évidentes. Non mais on lit les choses, puis oui évidemment, sauf qu'il a commencé par dire que la vitesse de la lumière était invariante. Bon, ça c'est son point de départ, et à partir d'évidence qu'on associe à cette propriété qui n'est pas du tout évidente, on arrive du coup à des choses qui peuvent sembler paradoxales. Mais son raisonnement, il est vraiment, vraiment très, très clair, et ça se suit phrase à phrase. Il n'y a pas de formule, ou très peu, en fait. C'est des formules qui sont assez élémentaires, contrairement à la partie électromagnétique qui, elle, commence vraiment par des choses complexes.
Pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, voici un passage de ce texte qui montre combien la théorie est énoncée de manière simple. Si nous voulons décrire le mouvement d'un point matériel, les valeurs de ses coordonnées doivent être exprimées en fonction du temps. Il faut toujours garder en tête qu'une telle définition mathématique possède un sens physique, seulement si nous avons au préalable une perception claire de ce qu'est le temps. Nous devons prendre en considération le fait que nos conceptions, où le temps joue un rôle, portent toujours sur des événements simultanés. Par exemple, si nous disons qu'un train arrive ici à cette heure, cela signifie que la petite aiguille de ma montre qui pointe exactement le 7 et que l'arrivée du train sont des événements simultanés. Il peut sembler que toutes les difficultés provenant de la définition du temps peuvent être supprimées quand au temps nous substituons la position de la petite aiguille de ma montre. Une telle définition est dans les faits suffisante quand il est requis de définir le temps exclusivement à l'endroit où l'horloge se trouve. Mais elle ne suffit plus lorsqu'il s'agit de relier chronologiquement des événements. Voilà, on l'entend, hein, c'est un style d'écriture très simple. Thibaut Damour, ce qui est intéressant aussi dans ce papier, c'est sa forme.
Sa forme, vous voulez dire qu'il n'a pas de citation à la fin?
Exactement, pas de référence scientifique. Enfin, si, il cite son ami Michele Angelo Besso.
Voilà, mais pour des discussions qui ont joué un rôle crucial, puisque il se promenait chaque week-end. Il n'avait que, à l'époque, il travaillait le samedi aussi, donc il avait un seul jour de repos, le dimanche, et souvent, il faisait des promenades dans les collines autour de Berne avec son ami Michele Angelo Besso, qu'il a beaucoup aidé parce que c'était quelqu'un de très fin, très intelligent, qui connaissait très bien la physique et qui aimait poser des questions, toujours dire « mais soyons plus clairs », etc. Donc certainement, il le remercie parce que Michelangelo Besso, à un moment, a dû dire « ah oui, mais là, ce que tu dis sur la vitesse de la lumière, Michelson-Morley, mais as-tu bien défini ce que veut dire vitesse, que veut dire… » Et là, tout d'un coup, Einstein s'est dit « tu as raison, il faut réfléchir à ça ».
À ce moment, ce texte sur la simultanéité, on voit bien que Einstein redéfinit ce concept Richard Taillé. Il est impossible de définir ce qu'est la simultanéité en physique. Elle n'a aucune existence physique au sens propre.
Alors plus précisément, elle est relative à la personne qui en parle. C'est-à-dire que deux événements peuvent être simultanés pour quelqu'un. Ça, on peut tout à fait en donner une définition claire. Mais dans ce cas, les deux événements qui sont simultanés pour moi ne le seront pas pour quelqu'un d'autre. Il donne l'exemple du train. Alors, il ne le développe pas autant ici, mais c'est souvent un exemple qui est pris. Si effectivement on observe depuis un train en mouvement que deux événements dans le train sont simultanés, quelqu'un qui est sur le quai de la gare et qui regarde passer le train verra ces événements non simultanés. Il y en a un qui arrivera avant l'autre. Et ça, c'est pas juste une illusion d'optique, c'est vraiment lié à ce qu'est l'espace et ce qu'est le temps.
Thibaut Damour, c'est aussi à partir de ce qu'a développé Einstein dans la théorie de la relativité restreinte qu'advient le paradoxe des jumeaux. Pour revenir sur ce paradoxe, je l'aime beaucoup.
Voilà. Et il est déjà dans cet article d'Einstein, parce que Einstein, à un moment de l'article, au-delà de la question définition formelle, simultanéité, temps, synchronisation d'horloge, dit vous prenez deux horloges jumelles de même fabrication, il précise aussi aspirale, des horloges comme des montres suisses avec un système interne à spirale, pas des horloges à balancier. Et ces horloges, s'il y en a une qui ne bouge pas et que sa sœur se met à se déplacer à une certaine vitesse et à revenir, eh bien, il démontre à partir de ses autres résultats que l'horloge voyageuse ne marque pas le même temps, qu'elle est plus jeune, voilà, qu'elle a passé moins de temps que l'autre. Et immédiatement, il dit, et d'ailleurs, ceci, on pourrait le voir en comparant une horloge à l'équateur sur Terre, à cause du déplacement de la Terre, avec une horloge au pôle Nord. Donc immédiatement, il pense à ça. Ça, c'est le paradoxe des jumeaux, avec deux horloges. Il a été le premier à penser ça, ce détrônement du concept de temps absolu. Ensuite, en 1911, il a été le premier à dire « Et si vous mettez des organismes vivants qui se reproduisent comme des bactéries, eh bien, le nombre de générations pour les bactéries qui ont voyagé sera moindre que pour les bactéries qui sont restées sur Terre. » Et ensuite, Langevin a utilisé des êtres humains mis dans des boulets, qui n'étaient d'ailleurs pas des frères jumeaux. C'est quelqu'un d'autre, je crois, un Anglais, qui a introduit la notion de deux frères jumeaux pour le rendre plus violente. Mais en fait, Einstein a pensé la violence de ce détrônement du temps absolu dès juin 1905. Et même, je trouve par contraste que quand on lit Langevin en 1911, on se dit que Langevin n'a même pas compris vraiment ce qu'était la relativité et la violence de ces détrônements du temps.
Ce temps, notre temps n'est pas absolu, il est impossible de mesurer des choses simultanément. Ça veut dire, Richard Taillet, que l'espace est forcément relatif lui aussi.
Oui, effectivement, tout ça se transpose très bien au niveau de l'espace aussi, quand ce qu'on appelle la longueur des corps ou même simplement les positions des corps dépendent de la personne qui les mesure. Et une des premières conséquences de l'article d'Einstein, d'ailleurs qui est développée dans l'article lui-même, c'est qu'effectivement un corps qu'on observe depuis un référentiel au mouvement, on va parler encore du train qui est en train de passer sur le bord du quai et qui ne s'arrête pas, si on s'arrange pour prendre une photo du train depuis le quai, avec un dispositif un petit peu malin qui permet de s'affranchir du temps que met la lumière pour aller du train à l'appareil photo, si on arrive à faire ça, on verra effectivement sur la photo que le train en mouvement est plus court que ce qu'il n'était au repos. Donc il s'agit quand même, alors du coup je réagis un tout petit peu à ce qu'a dit Thibaut Damour tout à l'heure, mais pas pour le contredire, mais pour compléter ou de dire un petit peu autrement. Il s'agit quand même d'une véritable contraction, c'est-à-dire que, alors c'est tout est dans le mot vrai, ce que veut dire vrai ou pas vrai. Si on prend une photo en prenant des précautions du train en train de passer depuis le quai, on le verra effectivement plus court, de la même manière que le train verra le quai plus court si il le prend en photo d'une manière un petit peu maligne.
Cette expérience du train, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se tourner vers votre dernière vidéo YouTube, Richard Taillet. Vous avez une illustration qui permet en effet de bien comprendre la relativité restreinte et ses conséquences sur l'espace et le temps. Avec cette expérience, on fait un photo-panorama. Alors, dans le cadre de la relativité restreinte, Thibaut Damour, on parle d'un espace-temps plat. Pourquoi plat ?
Par référence avec le fait que, à partir de 1912 et surtout en 1915, Einstein comprendra que cette idée d'interpréter ce qu'il avait écrit comme équation en termes de temps séparé et d'espace séparé était mathématiquement utilement vue en mettant ensemble dans un espace à quatre dimensions où les trois dimensions horizontale serait du genre temps et la quatrième serait, espace et la quatrième serait le temps. Il a considéré pendant longtemps que cette idée était un raffinement mathématique qui n'avait pas de vraies conséquences physiques et donc qui n'était pas intéressant. Mais lui-même, quand il a dû aller au-delà de la théorie de la relativité restreinte, à partir de 1907, qu'il a dû introduire disons un caractère non homogène à l'espace et le temps. Dans la théorie de la relativité restreinte, toutes les régions de l'espace et toutes les régions du temps et donc toutes les régions de l'espace-temps sont les mêmes. Il n'y a pas de différence, non seulement quand on a une certaine vitesse, mais quand on se déplace, c'est partout la même chose. alors qu'à partir de 1907 jusqu'à 1915, il s'est rendu compte que cette structure d'espace et de temps devait avoir, être différente, par exemple, à la surface de la Terre et très haut dans l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un espace-temps courbé par opposition à l'espace-temps plat qui est homogène de la relativité restreinte.
Voilà, l'espace-temps plat, comme vous dites, il n'inclut pas toutes les courbures liées à la gravitation qui sera ajoutée beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, pas beaucoup plus tard que ça d'ailleurs. Ça va assez vite dans cette histoire. Mais alors là, Einstein se débarrasse également du concept des terres luminifères. Tout ça, c'est superflu, hein, ça n'a plus lieu dans le cadre de la relativité restreinte. Quelle est la postérité de cet article? Quels sont justement, quelle est la réception également de cette théorie? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Thibaut Damour et Richard Taillé. C'est notre troisième épisode sur la relativité restreinte, troisième épisode de notre série sur l'année miraculeuse d'Einstein. On vient de parler de l'histoire de cette nouveauté conceptuelle, de comment Einstein a écrit ce troisième article. Il a été le seul à formuler cette théorie avec tant de clarté, le seul à croire que le temps pouvait être relatif et qu'on pouvait se débarrasser entièrement de l'éther. Richard Taillé, accepter que notre temps n'est pas absolu, que notre espace non plus, est-ce que ça a été quelque chose d'aisée. Quelle a été la réception de ces travaux?
Alors, au début, ça n'a pas eu non plus la révolution. Ça n'a pas été la révolution tout de suite où tout le monde s'en est ou bien offusqué ou félicité. Ça a quand même touché une partie assez faible de la communauté scientifique. Ce n'était pas le problème le plus brûlant non plus en physique à l'époque. Mais les gens ont attendu, les scientifiques ont essayé d'avoir des confirmations expérimentale en fait, se tourner vers des prédictions nouvelles. Donc ce que faisait la théorie d'Einstein, c'était de bien expliquer certaines choses qu'on connaissait déjà, donc d'apporter un cadre théorique satisfaisant. Mais il y a eu quelques prédictions qui assez rapidement ont conforté l'idée, notamment l'évolution de ce qu'on a appelé à l'époque l'évolution de la masse, l'augmentation de la masse de l'électron quand on l'accélère. C'était, alors on le dirait plus comme ça maintenant du tout, mais à l'époque on le disait comme ça, et c'était dû à effectivement c'était une conséquence de la relativité restreinte, et ça a été effectivement observé au bout de quelques années.
En effet, c'est dans le dernier chapitre de son article intitulé « Dynamique de l'électron lentement accélérée », Einstein donne des pistes qui vont permettre de tester sa théorie expérimentalement, Thibaut Damour.
Oui, mais sauf que d'ailleurs, cette équation qui donne une loi précise d'augmentation de l'inertie d'un corps avec sa vitesse avait déjà été écrite par Lorentz. Donc, même ça n'était pas une nouveauté totale. Il y avait d'autres prédictions, par exemple d'Abraham, une autre de Langevin un peu plus tard. Toutes ces prédictions avaient en commun le fait que si on s'approchait de la vitesse de la lumière, les corps devenaient de plus en plus inertes et ça devenait de plus en plus difficile de les faire bouger. Il y a eu des expériences en 1906 qui ont en fait semblé infirmer la théorie de Lorentz, la dynamique de Lorentz et d'Einstein, et plutôt confirmer celle d'un collègue, Abraham. Et à l'époque, Poincaré, qui parlait pourtant de principe de relativité, a écrit une phrase en disant « Il semble que les dernières expériences de Kaufmann sont telles qu'il ne faudrait pas attribuer au principe de relativité la validité qu'on aurait été tenté de lui donner. » Donc là, on voit une grande différence conceptuelle, c'est-à-dire que pour Poincaré, quand il utilise, et pour d'autres comme Lorentz, quand ils utilisent le mot principe de relativité, ça n'est pas un postulat fondamental, un axiome que l'on met au point de départ. C'est censé être une propriété simple et agréable pour s'en souvenir, que vous démontrez à partir d'autres, de théories microscopiques. Seul Einstein a pris le principe de relativité comme axiome dont il fallait déduire des conséquences. C'est ça aussi un retournement conceptuel d'Einstein qui a été essentiel pour la physique du XXe siècle, parce que la plupart des grandes théories de la physique du XXe siècle après ont suivi Einstein en disant prenons ce principe de symétrie de l'espace-temps comme point de départ et on va construire de nouvelles théories. la plus remarquable étant la description par Dirac d'un électron quantique relativiste qui a fait la prédiction de l'existence de l'antimatière, entre autres, et du moment magnétique de l'électron et du spin de l'électron. Donc, la puissance créatrice de la théorie de la relativité restreinte est devenue évidente à partir des années 20.
En tout cas, on a quand même aussi le principe de relativité qui fait débat, hein, des rejets de la théorie d'Einstein qui est bien connu. C'est celui, le rejet d'Henri Bergson, Richard Taillet, le plus prestigieux philosophe français de l'époque, qui publie en 1922 dans son ouvrage « Durée et simultanéité » et qui tente justement de réfuter les idées d'Einstein.
Coup là, vous me prenez complètement à froid.
Ah pardon.
C'est mon tour sur la question de Bergson.
Eh ben écoutez, Thibaut Damon me fait signe en me disant « Ah oui, oui,
voilà,
oui ».
Voilà, ça je connais bien aussi. Donc... Il y a même eu un dialogue entre Einstein et Bergson à Paris. Et d'abord, j'aimerais préciser que Bergson comprenait très bien les équations dont Einstein parlait parce qu'il était entré à l'école normale supérieure en classe par le concours de mathématiques, pas par le concours de philosophie. Donc, il n'avait aucun problème avec les équations, mais c'était philosophiquement. En fait, il remercie Einstein pour dire que Einstein l'a obligé à repenser le concept de temps, sauf que il rejette complètement ce que Einstein disait. Le point essentiel, je le répète, c'est que dans deux horloges, une qui se déplace et l'autre qui revient, elles ne marquent pas le même temps à la fin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de temps absolu. Bergson croyait fondamentalement qu'il doit exister un temps absolu. Et donc, il finit par conclure dans son livre, de façon un peu compliquée, que de même que la contraction des longueurs est un effet fictif, et de même que quand vous avez quelqu'un qui est très loin, il paraît plus petit, mais quand il revient, vous le voyez à sa taille normale, de même qu'une horloge qui va très loin et qui revient marquera le même temps. Et il n'a jamais voulu croire que ce que disait Einstein, malgré les expériences qui ont eu lieu plus tard. Mais ça montre la puissance... le changement conceptuel important de la théorie de la relativité restreinte au niveau conceptuel.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Einstein, dans cette histoire, lui, est certain de son cadre théorique. Et par la suite, la théorie de la relativité générale, en gagnant du crédit, a aussi donné du crédit à la relativité restreinte sur laquelle elle était basée, Thibaut Damour. Pour conclure.
Oui, effectivement, pendant longtemps, il y a même eu, en un sens, plus de confirmations expérimentales de la théorie de la relativité générale que de la relativité restreinte. Mais j'aimerais faire remarquer que le plus grand soutien d'Einstein, celui qui a compris l'importance de la théorie de la relativité restreinte et de l'importance d'Einstein comme scientifique, qui était Max Planck, quand, à partir de 1907, Einstein a dit « Ah oui, mais maintenant j'aimerais modifier le principe de relativité, dire qu'il ne s'applique pas seulement aux mouvements relatifs à vitesse constante et à direction constante, mais des mouvements accélérés ou des mouvements en rotation. » Là, Planck disait « Ouh là là !» ça met en danger la beauté et la simplicité d'un espace-temps homogène. Et donc, il a considéré que ce n'était pas un bon domaine de recherche pour Einstein. Et même, il lui reprochait, quand Einstein, après, en 1912, 13, 14, 15, s'est concentré sur la relativité générale, de perdre son temps à faire une théorie comme ça, alors que les problèmes urgents, c'était les problèmes quantiques.
Voilà, et vous venez de nous faire un merveilleux teaser pour notre prochain épisode sur la relativité générale. Merci à vous Richard Taillet, merci à vous Thibaut Damour de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on quitte le monde de la physique, mais pour compléter l'écoute, rendez-vous en librairie ou en médiathèque pour l'ouvrage de Thibaut Damour « Si Einstein m'était compté », paru en 2005 aux éditions du Cherche Midi, ou sinon rendez-vous sur YouTube pour la chaîne de vulgarisation qui s'appelle Richard Taillet. Maintenant, on part au Maghreb, au Néolithique, c'est l'heure de la chronique avec science.
Quelles sont les origines génétiques des populations préhistoriques du Maghreb ? Je vous propose que nous commencions par poser le cadre. Entre 20 000 et 4 000 ans avant notre ère se déroulent en Europe et au nord de l'Afrique de grandes évolutions culturelles et populationnelles. On passe de sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés dites de production, c'est-à-dire qui produisent et qui contrôlent ce qu'elles consomment. On entre en somme dans l'ère néolithique. Alors, Ça peut passer par la domestication animale et puis par la culture des plantes, mais les deux ne sont pas forcément concomitants. Cette néolithisation dépend des régions et des peuples, bien sûr. En Europe, on sait qu'elle s'est faite aux alentours de 7000 à 8000 ans avant notre ère par l'arrivée de populations d'Anatolie et du sud de l'Asie qui remplacent peu à peu les chasseurs-cueilleurs européens. Mais à l'inverse, le nord de l'Afrique reste encore assez mal connu. Isabelle Crèvecoeur est directrice de recherche CNRS au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux.
Pour le nord de l'Afrique, la partie sud de la côte méditerranéenne, on va dire, les questions sont les mêmes, mais sont beaucoup plus complexes parce que on va avoir peut-être un enregistrement aussi archéologique qui n'est pas aussi dense que celui qu'on a en Europe. Et puis, au niveau de l'ADN, eh bien, on va pas avoir la même qualité de conservation de ces données biologiques pour des raisons principalement de conservation de l'ADN, de la matière organique. Donc l'histoire, elle est plus parcellaire et en plus, elle est assez complexe par rapport à ce qu'on arrive à documenter au niveau des données archéologiques. Mais on partait de certains sites, notamment au Maroc, qui avaient pu être séquencés au niveau de l'ADN. Et qui montrait un schéma d'arrivée de population, de néolithisation sur un fond de population locale chasseurs-cueilleurs qui était extrêmement complexe.
Il y avait donc une population de chasseurs-cueilleurs ancienne et locale qui a perduré dans le nord-ouest de l'Afrique entre 20 000 et 10 000 ans. Et puis sur des sites un petit peu plus récents qui datent de 8 000 ans, c'est-à-dire de ce moment d'entrée dans une société de production, on a trouvé des individus qui gardaient un héritage biologique des anciennes populations locales, mais aussi d'autres individus qui avaient en plus de ça des traces génétiques d'autres populations européennes et asiatiques cette fois, qui elles étaient déjà passées à ces sociétés de production depuis un petit moment. Alors, il fallait comprendre ce qui s'était passé entre 10 000 et 8 000 ans, puisque là, on a des populations nouvellement arrivées aux pratiques qui s'apparentent au pastoralisme, et puis des populations anciennes qui se sont peu mélangées mais qui ont adopté ces pratiques. Mais par où ces néolithiques européens et asiatiques sont-ils arrivés ? Bien sûr, c'est la question que se pose cette étude qui est parue dans Nature. Alors, pour comprendre les dynamiques de population, les scientifiques ont séquencé l'ADN de 8 individus vieux de 8 à 6 000 ans et issus d'une région dont on n'avait aucune donnée, en Tunisie principalement. Et puis, un dernier individu qui datait de 13 à 14 000 ans et qui était issu d'un site en Algérie. Alors, qu'ont-ils découvert ? D'abord, les scientifiques ont confirmé qu'il y avait bien eu une conservation génétique des populations anciennes locales qui se sont peu mélangés, mais qui ont adopté ces nouvelles méthodes d'agropastoralisme. Ça, c'est pour l'Est du Maghreb.
Maintenant, grâce à cette étude, on peut dire que la plupart de ces populations qui sont arrivées au Maroc à l'époque néolithique et qui donc ont montré à la fois des affinités avec l'Europe et avec le sud-ouest asiatique, eh bien, sont certainement arrivées par l'Espagne plutôt que par l'Est. Et il y a encore une autre chose qu'elle met en lumière, c'est quelque chose qui se serait passé avant ce processus de néolithisation de la région, c'est la présence dans un des sites au tout début de cette néolithisation, aux alentours de 8000 ans, et dans lequel on n'a absolument aucun indice d'arrivée de population européenne ou levantine, donc du sud-ouest asiatique. En revanche, on a une toute petite part du pool génétique des deux individus séquencés dans ce site qui montre un apport de population chasseurs-cueilleurs européenne.
Il y aurait eu donc des échanges génétiques entre les populations de cette région de la Tunisie et des populations européennes avant les grandes vagues de migration et de néolithisation. Grâce aux traces archéologiques culturelles, on pense que ce serait probablement des personnes originaires de la région de la Sicile qui auraient navigué à travers la Méditerranée. Et ça, eh bien, ça souligne l'incroyable complexité des schémas de migration entre des échanges anciens à travers la mer et puis des arrivées plus conséquentes des populations néolithiques venus d'Europe et d'Asie qui ont diffusé depuis la péninsule ibérique à l'ouest vers l'est du Maghreb.
Merci Alexandre pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Céline Lozen, Lou Anger, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Ali Yaha. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.